Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour le Kaléidoscope 2024. Et nous commençons le Kaléidoscope 2024 avec l'événement du 9 janvier 2024. Le président Joko Widodo et une délégation limitée ont entamé le 9 janvier 2024 une série de visites dans trois pays de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, à savoir les Philippines, le Vietnam et Brunei Darussalam. Cette visite était une visite de retour après la dernière visite de 5 il y a des années. Le président a expliqué que les Philippines étaient le premier pays à être la destination de la visite car l'Indonésie et les Philippines célébraient 75 ans de relations diplomatiques. Après les Philippines, le président Joko Widodo et la délégation ont poursuivi leur visite au Vietnam, l'un des partenaires commerciaux stratégiques de l'Indonésie dont les objectifs commerciaux s'améliorent. Après avoir quitté le Vietnam, le président Joko Widodo s'est rendu au Brunei Darussalam pour répondre à l'invitation au mariage du fils du sultan Hassan al-Bolkiah et à rencontrer des hommes d'affaires brunéiens. Chers auditeurs, le 17 janvier a été un jour historique pour Radio République Indonésia. Le président Joko Widodo a fait sa première émission au mini-studio de Radio République Indonésia dans la capitale IKN Nusantara. La présence du président Joko Widodo au studio RRI s'inscrit dans le cadre d'une série d'inaugurations révolutionnaires ou inauguration de plusieurs projets dans la capitale IKN Nusantara. Le chef de l'État salue la présence de RRI à l'IKN Nusantara.
Selamat siang semuanya. Saya sangat senang.
Bonjour à tous, je suis très heureux qu'il y ait un studio RRI dans la capitale de l'IKN Nusantara. Celui-ci pourra fournir des informations sur les évolutions de la capitale de l'IKN Nusantara, tant l'aménagement de plantations d'arbres que le développement de l'infrastructure. Je ne pense pas que les gens dans tout le pays aient entendu parler des développements dans la capitale d'IKN Nusantara. Selon le président Joko Widodo, grâce à l'existence de RRI, tous les Indonésiens d'Aceh à la Papouasie pourront être informés des développements dans la capitale de l'IKN Nusantara. Le même jour, le président a inauguré le centre logistique de Nusantara, Pos Indonesia, la mosquée d'État, le bâtiment du bureau de l'autorité IKN et l'hôtel Jambu Luwuk Nusantara. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a participé à la réunion de retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, AMM, à Luang Prabang, au Laos, le 29 janvier. La première réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères sous la présidence du Laos comprenait, parmi d'autres choses, s'accordant sur la poursuite des résultats de la présidence indonésienne de l'année précédente. La ministre Retno Marsudi a déclaré que les participants à la réunion étaient convenus de continuer à intégrer l'agenda maritime au sein de l'ASEAN pour encourager la stabilité et la coopération maritime régionale, y compris l'économie bleue et la mise en œuvre de l'ASEAN Maritime Forum, AMF, Forum Maritime élargi de l'ASEAN, EAMF. Concernant la Palestine, ils ont exprimé leur inquiétude et appelé à la fin immédiate de la violence et au cessez-le-feu à Gaza, ont fermement condamné les actes de violence contre les civils, ont soutenu la solution à deux États et ont exhorté Israël se conformera à la décision de la Cour internationale de justice concernant Gaza. Chers auditeurs, passons au mois de février. Le 14 février 2024 est un jour très important pour la nation indonésienne. Les citoyens indonésiens qui ont le droit de vote tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ont voté dans le bureau de vote TPS déterminé en fonction de leur domicile. Après avoir exercé leur droit de vote au bureau de vote TPS, dit Gambir, centre de Jakarta, le président Joko Widodo a exprimé son espoir que les élections se dérouleront selon les principes au direct, général, libre, secret, honnête et équitable. Le président espère également que l'élection générale pour tous les Indonésiens peuvent participer avec bonheur à 2024. Le président Joko Widodo a déclaré: c'est un parti de la démocratie. Nous espérons que ce sera le parti du peuple, qu'il se déroulera également de manière équitable, débordante, et que tout le peuple indonésien y participera avec joie, car c'est le parti du peuple, un parti de la démocratie. Le même jour, le chef de la police nationale indonésienne, Kapolri, le général Listio Sigit Prabowo, a assuré que le processus de vote pour les élections de 2024 qui se déroulaient dans toute l'Indonésie était sûr et contrôlé. Le 19 février, le président Joko Widodo a officiellement signé un règlement présidentiel réglementant les responsabilités des plateformes numériques ou le décret présidentiel sur les droits des éditeurs. Selon le président, ce décret présidentiel est l'un des efforts du gouvernement pour réaliser un journalisme de qualité et la durabilité de l'industrie des médias conventionnels dans le pays. Le président, dans son discours alors qu'il assistait au point culminant de la commémoration de la Journée nationale de la presse 2024, qui s'est tenue le 20 février 2024, dans le nord de Jakarta, a déclaré que le gouvernement voulait garantir le développement du journalisme dans le pays en qualité et c'est loin d'être un contenu négatif. En dehors de cela, le gouvernement veut également garantir que pérennité de l'industrie médiatique nationale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présidé la réunion des ministres des Affaires étrangères de MICTA, composée du Mexique, de l'Indonésie, de la Corée du Sud, de la Turquie et de l'Australie lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 et de MICTA à Rio de Janeiro au Brésil le 21 février. La ministre Retno Marsudi a déclaré son parti a souligné l'importance de renforcer le rôle de MICTA en tant que puissance moyenne. En dehors de cela, selon elle, MICTA doit profiter de la diversité en tant que groupe interrégional. Retno Marsudi a dit MICTA doit contribuer à apaiser les tensions dans leurs régions respectives, notamment en tant que puissance rassembleuse. Par exemple, je donne un exemple, le rôle de l'Indonésie en essayant de continuer à contribuer au maintien de la stabilité et de la paix en Asie du Sud-Est. En outre, la ministre Retno a également déclaré « MICTA doit être en mesure de produire des projets plus concrets pour surmonter les défis mondiaux ». Selon elle, la réalisation des projets concrets de MICTA augmentera le rôle de MICTA dans la gouvernance mondiale. Lors de cette réunion, l'Indonésie a passé le relais, la présidence de MICTA, de l'Indonésie au Mexique. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a prononcé la déclaration orale de l'Indonésie en faveur de la fatwa juridique ou de l'avis consultatif de la Cour internationale concernant les conséquences juridiques de l'occupation illégale de la Palestine par Israël dans une déclaration orale prononcée à La Haye. Le 23 février, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présenté divers arguments comme contribution et pour renforcer l'octroi de fatwa juridique par la Cour internationale. Il y a deux aspects principaux dans la déclaration orale de l'Indonésie. Premièrement, d'un point de vue juridictionnel, la ministre des Affaires étrangères a souligné que la Cour internationale a le pouvoir d'émettre des fatwas légales. Deuxièmement, du point de vue du fond, le ministre des Affaires étrangères a souligné que diverses politiques d'Israël sont contraires au droit international et exposent ses conséquences juridiques. Chers auditeurs, passons au mois de mars. Le président indonésien Joko Widodo a quitté la base aérienne Halim Perdana Kusuma pour Melbourne en Australie le 4 mars pour assister à la conférence spéciale de haut niveau au sommet ASEAN-Australie. Le sommet qui s'est tenu dans le contexte du 50e anniversaire du partenariat ASEAN-Australie a discuté du partenariat stratégique ASEAN-Australie. L'Australie et les 10 États membres de l'ASEAN ont convenu de la déclaration de Melbourne qui appelle à une résolution pacifique du différend en mars de Chine méridionale par le biais de processus juridiques et diplomatiques, sans recours à la menace ou à l'utilisation de la force, conformément au droit international, y compris Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Outre les progrès réalisés dans la déclaration de Melbourne, le sommet a également donné lieu à de nouvelles initiatives, dans divers secteurs considérés comme susceptibles de renforcer les relations de l'ASEAN avec l'Australie. Ce jeudi tard, le 21 mars, le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, ou KM Teten Masduki, s'est rendu au Vietnam pour renforcer la coopération économique entre l'Indonésie et le Vietnam, en particulier dans le secteur des coopératives MPME et de la production alimentaire. Le ministre Teten a appelé d'autres pays de l'ASEAN, l'Indonésie et le Vietnam, ont relativement le même potentiel économique. Teten a déclaré que le potentiel des deux pays peut être optimisé grâce à une collaboration pour augmenter la production alimentaire et l'aval, impliquant des coopératives et des MPME dont l'une développe un écosystème agricole numérique. Teten a ajouté en outre la collaboration et la recherche et le développement dans le secteur agricole et la pêche pour accroître la compétitivité des produits des coopératives et des MPME sur le marché mondial. Sur le tard, simultanément, le 21 mars 2024, l'Indonésie et Singapour ont mis en œuvre trois accords, à savoir l'accord d'ajustement des services de l'espace aérien ou Realignment Flight Information Region, FIR, l'accord de coopération en matière de défense, DCA, et le traité d'extradition. Ces trois accords sont très importants pour accroître la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines respectifs de la coopération en matière de sécurité et de l'efficacité des services de navigation dans l'espace aérien, de la coopération en matière de défense et de l'application de la loi à travers extradition.
Passant à l'avril, le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a débloqué une aide humanitaire pour le peuple palestinien en Égypte et le peuple soudanais touché par le conflit en Ukraine et l'épidémie au Soudan. L'aide humanitaire indonésienne a été débloquée par le président depuis la base de l'armée aérienne de Halim Perdana Kusuma, Jakarta, mercredi 3 avril 2024. Le président a déclaré que l'Indonésie était préoccupée par les événements humanitaires survenus à Gaza, en Palestine et par le conflit interne survenu au Soudan qui a fait de nombreuses victimes. L'aide envoyée était conforme à la demande officielle des gouvernements égyptiens et soudanais. L'aide envoyée s'élevait à environ 30 milliards de rupiah sous forme de médicaments et d'équipements de santé ainsi que d'autres aides conformément à la demande officielle du gouvernement égyptien et le gouvernement soudanais. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a reçu le 18 avril la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au bureau du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta. Dans un communiqué de presse conjoint à l'issue de la réunion à huis clos, la ministre Retno a déclaré que les deux ministres des Affaires étrangères étaient d'accord sur plusieurs points. Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de renforcer la coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays, notamment en concentrant davantage d'efforts sur la coopération en matière d'investissement. Dans le domaine économique, la RPC, ou République populaire de Chine, est l'un des partenaires importants de l'Indonésie. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Indonésie avec un volume d'échanges atteignant plus de 127 milliards de dollars américains. Plusieurs axes de coopération en matière d'investissement continueront d'être renforcés, notamment dans les domaines de la valeur industrielle, du développement des infrastructures, de l'industrie manufacturière, de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire. Outre la coopération économique, Reton et Wang Yi ont également discuté de la coopération dans la gestion et la prévention de la criminalité transfrontalière, en particulier la fraude en ligne et les problèmes mondiaux tels que la Palestine. Reton a souligné à Wang Yi l'importance du respect du droit international pour maintenir la stabilité et la paix dans la région Indo-Pacifique. La Commission électorale générale au KPU de l'Indonésie a annoncé le vainqueur de l'élection présidentielle de 2024 au bureau de la KPU à Jakarta le 24 avril. Le président du KPU, Hashim Asy'ari, en lisant la décision du KPU, a officiellement nommé le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, président élu, et le maire de Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, vice-président élu.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang
la décision de la Commission électorale générale concernant la détermination du couple de candidats élus au poste de président et de vice-président aux élections générales de 2024. Tout d'abord, inaugurer le couple de candidats à la présidence et à la vice-présidence numéro 2, Haji Prabowo Subianto et Gibran Rakabuming Raka, en tant que le couple de candidats élus à la présidence et à la vice-présidence pour la période 2024 à 2029 lors des élections générales de 2024. Prabowo et Gibran ont reçu plus de 96,2 millions de voix, soit 58,59% du total des votes valides lors de l'élection qui a lieu le 14 février. Le nombre de voix atteint au moins 20% des voix dans chaque province d'Indonésie. L'annonce s'est déroulée en présence de tous les candidats à la présidentielle et à la vice-présidence, ainsi que des représentants du gouvernement et du parlement. Le président Joko Widodo et le premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, ont tenu la 7e réunion de haut niveau de la retraite de dirigeants entre l'Indonésie et Singapour au palais présidentiel de Bogor le 29 avril 2024. Au cours de la réunion, ces deux dirigeants ont discuté de l'augmentation de la coopération entre l'Indonésie et Singapour. Le président Jokowi a exprimé son appréciation pour la mise en œuvre de l'accord de réalignement de la région d'information de vol FIR de défense et d'extradition. Concernant la coopération dans le secteur économique, le président Jokowi a déclaré que l'Indonésie avait offert plusieurs opportunités d'investissement à Singapour. Depuis l'investissement à la fabrication textile dans le parc industriel de Kendal, l'économie verte jusqu'à la capitale de Nusantara, IKN. Pendant ce temps, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, l'Indonésie et Singapour ont également convenu d'encourager la coopération en matière de transfert de technologies et des sciences de science et des technologies de transformation des aliments. Concernant l'éducation, le président Jokowi a déclaré que l'Indonésie avait souligné l'importance de réactiver le groupe de travail conjoint. Le président a également invité Singapour à assister au 10e Forum mondial de l'eau à Bali. Passons au mois de mai, nous commençons le 4 mai 2024. Le 4 mai 2024, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a participé au 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique, OCI, à Banjul, en Gambie. Ce sommet avait pour thème « Augmenter l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». La question au centre des discussions était la situation en Palestine. À cette occasion, Retno Marsudi a souligné que l'Organisation de la coopération islamique, OCI, doit l'indépendance au peuple palestinien. Selon Retno Marsudi, dans cette situation difficile, l'OCI doit s'unir pour défendre la justice et l'humanité pour le peuple palestinien. Elle espère que l'OCI concentrera toute son attention sur l'indépendance palestinienne. L'OCI devrait également encourager et établir un cessez-le-feu immédiat et permanent. Le 15e sommet de l'OCI a abouti à la déclaration de Banjul. Il y a 34 points contenus dans la déclaration qui vise à répondre aux défis des musulmans du monde à l'avenir, y compris la résolution du conflit palestinien, la mise en œuvre des résultats des discussions et des accords conclus lors du 15e sommet de l'OCI devrait permettre de relever ensemble les défis futurs de la communauté musulmane, y compris la résolution du conflit palestinien. Du 18 au 25 mai 2024, l'Indonésie organisera le 10e Forum mondial de l'eau à Nusa Dua, Bali. Ce forum rassemble des chefs d'État, des chefs d'organisations internationales, de hauts responsables gouvernementaux, des experts, des universitaires, des entrepreneurs et des économistes du monde entier partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs pratiques sur une variété de sujets liés à l'eau. Ce forum rassemble des participants de tous niveaux et de tous domaines, y compris la politique, les institutions multilatérales, le monde universitaire, la société civile et le secteur privé. Ce forum a pour thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Dans son discours d'ouverture du forum, le président Joko Widodo a déclaré que le thème pouvait être interprété comme trois principes de base, à savoir éviter la concurrence, donner la priorité à l'égalité et à la coopération inclusive et soutenir la paix et la prospérité partagée. Ces trois éléments, selon le président, ne peuvent être réalisés qu'à grâce à la collaboration.
Yang mulia, dengan berkumpulnya kita di Bali.
Votre Excellence, avec notre réunion à Bali aujourd'hui, l'Indonésie espère bien sûr que le monde pourra collaborer de manière continue pour renforcer l'engagement de collaboration pour surmonter les défis mondiaux liés à l'eau. Préservons notre eau aujourd'hui pour une prospérité partagée demain.
For share prosperity tomorrow.
Le 10e Forum mondial de l'eau à Bali a produit une déclaration ministérielle qui comprenait une proposition pour la création d'un centre d'excellence COE sur l'eau et la résilience climatique dans la région Asie-Pacifique, propose la communication de la Journée mondiale des lacs ainsi que soulever et encourager la question de la gestion intégrée des ressources en eau dans les petites îles. Ce forum a également proposé l'existence d'un fonds mondial de l'eau ou d'une plateforme mondiale de financement de l'eau qui serait un forum multipartite pour aider à résoudre les questions de financement efficace et durable de l'eau. Ce forum a également produit 113 projets d'une valeur de 9,4 milliards de dollars américains, soit environ 151 billions de roupies, parmi lesquels des projets visant à accélérer l'approvisionnement en eau potable de 3 millions de foyers et des projets de gestion des eaux usées domestiques pour 300 000 foyers à travers le monde. Passons au juin. Le 1er juin 2024, l'Indonésie commémore la naissance de Pancasila. La commémoration de cette année a eu lieu dans la ville de Dumai, province de Riau. Le président Joko Widodo a expliqué qu'il s'agissait d'un symbole de la souveraineté indonésienne étant donné que le bloc Rokan, un bloc pétrolier et gazier précédemment géré par Chevron, appartenait déjà à Pertamina. Selon lui, depuis qu'il est géré par les Indonésiens, la production pétrolière dans le bloc Rokan a considérablement augmenté, passant de 130 000 barils de pétrole par jour à 162 000 barils par jour. Nous voulons vous rappeler que le bloc Rokan à Dumai, dans la province de Riau, est détenu à 100% par Pertamina. Détenu par notre pays, l'Indonésie est géré à 100% par les propres enfants de la nation. La production quotidienne est de 162 000 barils par jour. C'est plus élevé qu'avant lorsqu'elle était réalisée par ses ponts qui étaient de 130 000, ce qui signifie qu'elle a été réalisée par nos propres enfants. C'est une bonne augmentation et j'ai fixé un objectif pour qu'elle soit supérieure de 100 000.
Dikerjakan oleh anak-anak kita sendiri, itu terjadi peningkatan. Ini yang baik dan saya memberikan target agar bisa di atas 200.
Concernant la stratégie d'atteinte des objectifs, le président a déclaré que Pertamina avait commencé à utiliser une nouvelle technologie promoteuse. Selon lui, cette technologie est actuellement mise en œuvre dans un seul puits et a donné lieu à plusieurs productions. Le président a ajouté que l'exploration avec cette nouvelle technologie se poursuivra l'année prochaine. Le 3 juin 2024, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du secrétaire d'État Pratikno, a annoncé la démission de Bambang Susantono en tant que chef de l'autorité de la capitale Nusantara, OIKN, et de Doni Harjo en tant que chef adjoint de l'OIKN. Dans sa déclaration devant l'équipe de médias du bureau du président à Jakarta, Pratikno a déclaré que le décret présidentiel concernant le licenciement avait été publié le 3 juin 2024. Pour pouvoir les postes vacants, le président Joko Widodo a nommé le ministre des Travaux publics et du logement public Basuki Hadi Mulyono et le vice-ministre des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire en tant que chef adjoint de l'Agence nationale de terre ATR BPN, Raja Juli Anthony comme chef et chef adjoint par intérim de l'OIKN. Le président espère que le chef et le chef adjoint par intérim de l'OIKN pourront immédiatement garantir l'accélération du développement de l'OIKN. Le 12 juin 2024, le président Joko Widodo a officiellement inauguré la Foire de Jakarta 2024 à Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta. Cet événement annuel devenu l'une des icônes de la ville de Jakarta a eu lieu à nouveau pour la 55e fois et a suscité l'intérêt des habitants de diverses régions d'Indonésie. Dans son discours, le président Jokowi a déclaré que la Foire de Jakarta est un événement très attendu par le public car elle offre une variété de divertissements et de shopping à des prix abordables. En dehors de cela, la Foire de Jakarta présente également une variété de festivités allant des délices culinaires, des manèges de jeu, des défilés de carnaval aux concerts de musique. Le 24 juin 2024, le président Joko Widodo a officiellement lancé la numérisation des services de licence pour l'organisation d'événements afin d'accélérer le processus de licence en Indonésie. Dans son discours, le président Jokowi a apprécié l'existence d'un système de licence d'organisation d'événements intégrés ou soumission unique en ligne OSS. On espère que la numérisation du processus d'octroi de licence facilitera le traitement des permis pour les organisateurs d'événements. Même si la numérisation a eu lieu, le président Jokowi a souligné l'importance de la gestion de la planification de l'événement par l'organisateur et le gouvernement. Selon le président, la demande de permis devrait être effectuée beaucoup plus tôt avant la tenue de l'événement. Avec une telle planification, le chef de l'État estime que les organisateurs peuvent promouvoir l'événement plus largement. De plus, certains processus d'octroi de licence ne prennent pas beaucoup de temps. À cette occasion, le président a également déclaré que la tenue d'événements à l'échelle nationale et internationale pourrait avoir un impact positif sur le pays. Le président a donné l'exemple du Qatar qui a réussi à accroître la croissance économique du pays en organisant la Coupe du Monde en 2022. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici Magazine Culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le Wedang Kacang de Magelang dans la province de Java Central. Dans l'air frais de la ville de Magelang, un bol de Wedang au cacahuète chaud peut être le compagnon idéal pour recevoir le corps. Ce wedang kacang ou le wedang au cacahuète est un menu spécial toujours recherché par les habitants de Magelang ou bien les touristes qui visitent cette ville. Le wedang kacang, une boisson traditionnelle typique de Magelang, utilise des cacahuètes comme ingrédient principal. Tandis que wedang en javanais signifie boisson chaude. Pour préparer cette boisson, les cacahuètes doivent d'abord être trempées dans l'eau chaude, mélangées à du sucre pendant environ une journée. Puis les cacahuètes sont à nouveau bouillies avec du sucre de palme et du sucre cristallisé jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Pour obtenir des haricots vraiment mous, il faut un long processus d'ébullition. Environ une heure et demie. Ce long processus produira une sauce épaisse, brune rougeâtre, ainsi qu'un goût savoureux distinctif qui rend le wedang kacang toujours populaire. D'habitude, le wedang au cacahuète est servi dans un bol avec du riz gluant blanc, il a donc un goût sucré et salé distinctif. Même si la portion n'est pas trop grosse, elle est copieuse. Un bol de wedang au cacahuète est généralement vendu pour 11 000 de rupiah par bol. Le wedang au cacahuète peut également être servi avec de la glace. Et d'habitude, lorsque l'on déguste du wedang au cacahuète, il y a un accompagnement qui n'est pas moins intéressant, à savoir le saté à la banane, qui est vendu environ 5 000 de rupiah. Et d'habitude, le stand vendant du wedang au cacahuète sont ouverts de 16h30 après-midi jusqu'à 20h le soir. Chers amis, si vous êtes en visite ou en vacances en Indonésie, notamment à Magelang où le climat est frais, essayez les wedang cacahuètes qui peuvent réchauffer votre corps. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersipu, rawam sikapmu, balik ke mulutmu. Diaman kabutmu, di tabir mega-megamu. Ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Maru di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Maru di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku.
Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Kirana Jakarta 2025. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent célébrer le réveillon du Nouvel An 2025 dans la ville de Jakarta, vous pourrez profiter du spectacle Kirana Jakarta 2025. Le spectacle initié par City Vision et le gouvernement de la province de la région spéciale de Jakarta aura lieu à Jakarta dans le quartier du rond-point de l'hôtel Indonesia. Le thème cette fois-ci est Jakarta, une ville mondiale aux millions de charmes. Dans l'espoir d'inviter les résidents, les touristes et les visiteurs de la ville de Jakarta à mieux connaître la ville de Jakarta et la culture indonésienne. Le spectacle de Kirana Jakarta offrira une expérience inoubliable à tous les visiteurs. Ce spectacle conjuguera la beauté étincelante de la ville, la gentillesse de ses habitants et la richesse de sa culture. Le ciel de Jakarta brillera à travers un feu d'artifice oublissant, symbolise l'espoir, la prospérité et l'avenir de la ville, comprenant une variété d'arts visuels uniques et accrocheurs et aussi des technologies médiatiques extérieures. Comme le spectacle de lumière de 800 drones et le mappage de projection 3D. outre ses performances sophistiquées, pour célébrer la diversité de la culture indonésienne et animer la nouvelle année, impliqueront les communautés locales telles que la danse de Betawi, les chorales d'enfants. De plus, les visiteurs peuvent également assister à des spectacles musicaux d'artistes de renom tels que Rahmania Astrini, Ran et Yura Yunita, combinés à un festival culturel célébrant la diversité du patrimoine indonésien. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt!
Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Takkan mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Kau tak akan terganti.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Tak didi.